Bienvenue au Labo des Savoirs, votre rendez-vous avec la science. Nous allons embarquer pour l'infiniment petit et vous conduire dans un monde bien étrange, le monde quantique. Pendant cette émission, nous remonterons aux origines de la mécanique quantique et essaierons de retracer son histoire. Comment a-t-elle émergé? Est-ce qu'elle a été facilement acceptée par les scientifiques? Découvrons son histoire ensemble afin de mieux la comprendre.
Ce voyage dans le temps sera aussi l'occasion de parler philosophie, car la mécanique quantique, ce n'est pas que de la physique. Elle soulève des questions tellement bouleversantes que même les philosophes s'y intéressent de près.
Explorer les lois mystérieuses de la mécanique quantique. Les électrons, les photons nous réservent beaucoup de surprises. Et à la fin de cette émission, vous deviendrez familier de ces particules qui constituent notre univers.
Mais surtout, vous verrez comment les chercheurs manipulent ces particules pour exploiter tous ces phénomènes. Et ces prouesses ne sont pas confinées au laboratoire, car beaucoup d'objets de notre vie quotidienne ont profité des découvertes scientifiques dans ce domaine.
Alors accrochez-vous et préparez-vous à plonger dans l'univers énigmatique de l'infiniment petit. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous accueillons dans notre studio deux chercheurs. Ludovic Beau, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne, l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne. Vous enseignez également la philosophie des sciences à l'École des Mines de Nantes. Ludovic Beau, la mécanique quantique, est-ce aussi une question de philosophie ?
C'est une question de philosophie dans la mesure où, pour la première fois, on a une théorie physique qui nous contraint à une interprétation. Comme si la physique quantique ne disait rien d'elle-même, mais dépendait de tout un contexte intellectuel qui permet de l'interpréter. Si on ne l'interprète pas, la physique quantique n'est qu'un formalisme mathématique, permettant de faire des prévisions empiriques et expérimentales, mais il est très difficile de dire ce qu'elle nous dit sur la nature, sur la matière.
Avec nous au studio également, Jean-Luc Duvail. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes et chercheur à l'IMN, l'Institut des matériaux Jean Rouxel. Vos recherches portent sur les nanophiles et les nanomatériaux fonctionnels. Jean-Luc Duvail, la mécanique quantique semble très abstraite, mais pourtant elle a des applications concrètes, n'est-ce pas ?
Oui, la physique quantique est omniprésente dans tout un tas de dispositifs autour de nous. Le téléphone portable, vos ordinateurs, pour ne citer que cela.
Ludovic Beau ?
Toute l'électronique, les réacteurs nucléaires, les supraconducteurs, les lasers aussi sont un premier exemple historique probablement d'effets macroscopiques visibles à l'œil nu, quantiques.
Donc beaucoup d'objets de notre quotidien, ou en tout cas une partie de notre quotidien, semblent influencés par la mécanique quantique, et pourtant la plupart des gens ne le savent pas.
Alors justement, les chercheurs, c'est bien par eux que commence l'histoire de la mécanique quantique, puisqu'elle est née, Maxime, au sein des laboratoires de physique.
Effectivement, Jérémy. Alors, dites-nous, Ludovic Beau, est-ce que vous êtes habitué à ce genre de perplexité face à la mécanique quantique ?
Je dirais qu'en tant que philosophe des sciences et enseignant un peu pour vulgariser ces notions, c'est un peu ma vie quotidienne de jouer avec les paradoxes quantiques et d'essayer d'en parler en français, c'est-à-dire sans faire trop d'équations et trop de schémas au tableau.
Justement, d'où vient le mot quantique ?
Alors, quantique vient du terme quanta. Ça vient du fait que les physiciens ont découvert, dans des phénomènes qui auraient dû être ondulatoires, des quantités discontinues qui faisaient plutôt penser à des aspects corpusculaires. Donc, il s'est présenté des phénomènes atomiques qu'on ne pouvait qu'interpréter en termes de quantité d'énergie discontinue. Donc, c'est ce terme quanta qui veut dire quantité insécable, qui est passé dans le langage courant pour te donner l'activité quantique.
Donc il s'agit là des débuts de la mécanique quantique dans les années 20. Et justement, la mécanique quantique, à cette époque-là, a marqué une véritable rupture dans la façon de penser des physiciens.
D'abord, je pense que le plus important à savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été anticipé avant par la physique classique. La physique classique se vivait à la fin du 19e siècle comme une physique à peu près terminée. Lord Kelvin avait même dit, avait cité 2-3 problèmes, disant que la physique serait terminée quand on aurait fini avec ces problèmes-là. Or, il s'est avéré que ces 3 problèmes ont ouvert la physique quantique. Et à la fin des années 20, un nouvel édifice conceptuel, qu'on appelle donc la mécanique quantique, est né et a pratiquement été achevé sur un plan conceptuel, et après on a fait qu'explorer quantité de conséquences expérimentales et conceptuelles de cette théorie.
Et aujourd'hui, elle est plutôt bien acceptée, la mécanique quantique, parmi les chercheurs ?
Elle ne souffre d'aucune discussion. C'est l'interprétation qui souffre de discussion.
Jean-Luc Duvail, est-ce que vous souhaitez réagir ?
Oui, disons, dans mon quotidien, l'aspect philosophique, effectivement, est peu présent. En revanche, dans le quotidien du chercheur, dans le domaine des nanosciences, la mécanique quantique est plus un outil qui me permet de comprendre les propriétés, d'interpréter les expériences et les résultats que l'on obtient lors des études de propriétés électriques, optiques, par exemple, sur les nouveaux systèmes que l'on synthétise.
Comme on l'a vu, les chercheurs ont eu beaucoup de mal à accepter la mécanique quantique, principalement parce qu'elle entre totalement en contradiction avec les règles de la mécanique classique. La première de ces contradictions, c'est bien la complémentarité onde-corpuscule. Stéphanie Morin nous explique tout de suite de quoi il s'agit.
Notre monde est composé de particules microscopiques. Effectivement, les atomes qui sont composés d'électrons, de protons, de neutrons, forment la matière. Et même la lumière est composée de particules, les photons. C'est à cette échelle microscopique que s'applique la mécanique quantique. La mécanique classique, en revanche, régit le monde tel que nous le percevons à échelle humaine. Ces lois nous sont naturelles, tellement naturelles qu'il est difficile d'imaginer que les particules se comportent différemment. Lors d'une promenade au bord d'un étang, vous ramassez une pierre. Celle-ci est constituée de matière et d'après les lois de la mécanique classique, elle se trouve en un seul endroit, dans la paume de votre main. Si maintenant vous la lancez dans l'étang, des ondulations apparaissent à la surface de l'eau. Vous avez créé une onde. Contrairement à de la matière, une onde n'est pas localisée et deux ondes peuvent se traverser. En mécanique classique, on distingue l'onde et la matière. Le poste de radio qui vous permet d'écouter cette émission est constitué de matière. Vous pouvez interagir avec, comme avec toute forme de matière. Ma voix et tout le reste de cette émission, en revanche, forment une onde sonore qui traverse l'air pour parvenir à vos tympans. Il ne viendrait à l'esprit de personne qu'une chose puisse à la fois tenir de la matière et de l'onde, dans un mélange énigmatique de tangible et d'intangible. À personne, sauf aux spécialistes de la mécanique quantique, qui ont observé qu'à petite échelle, la frontière n'est pas si nette. Un photon, par exemple, est souvent décrit comme une particule de lumière. En effet, on peut envoyer des photons sur une plaque photographique et voir des points noirs apparaître là où les particules ont rencontré la plaque. Et pourtant, ces photons sont aussi des ondes. Une expérience a encore récemment mis en valeur cette dualité. Trois laboratoires se sont réunis pour cela, le laboratoire de physique de la matière condensée, le laboratoire matériaux et phénomènes quantiques et l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Leur expérience a consisté à faire passer un photon dans deux détecteurs, le premier détectant une particule et le deuxième détectant une onde. Et comme prévu par la théorie, les deux détecteurs étaient activés à chaque essai.
Le Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses.
Alors comme nous venons de le voir, il y a des preuves expérimentales de cette dualité onde-corpuscule, comme cette expérience réalisée en 2012 en observant un photon unique. Et ces recherches, qui ont été dirigées par le physicien Sébastien Tanzi, ont d'ailleurs été publiées dans la revue Science. Une réaction, Ludovic Beau ?
Alors, la dualité onde-corpuscule, moi ce que j'ai envie d'en dire, c'est tout d'abord, c'est un concept un peu daté, et qui date précisément de ce qu'on a appelé, ce qui a été la première interprétation de la mécanique quantique par l'école de Copenhague, dirigée par Niels Bohr. Ça date des années 1925-26. Et il faut plutôt parler de complémentarité onde-corpuscule, enfin onde-particule. Le fait est que la physique quantique ne parle ni d'onde ni de corpuscule. Ça parle d'autre chose. Un objet quantique est autre chose. Si on pense à une particule, c'est quelque chose de localisé dans l'espace et qui a une trajectoire, c'est-à-dire une position en fonction du temps. Un objet quantique n'a pas de position, donc n'a pas de trajectoire. C'est pas une particule. C'est pas une onde non plus, au sens où ça n'a pas une énergie bien définie comme une onde. Ça n'est que dans la mesure où on fait une mesure, excusez-moi de la répétition, mais c'est que si on décide de faire une mesure, qu'un objet quantique va tantôt montrer des aspects corpusculaires et tantôt des aspects ondulatoires. Mais c'est dû au problème de la mesure. Ça ne traite pas de l'objet quantique en tant que tel.
Daté, comme vous dites, mais effectivement, cette notion de dualité ou de séparation entre les particules et les ondes, elle remonte quand même au XVIIe siècle. À l'époque, c'était le physicien néerlandais Christian Huygens qui pense que la lumière est composée d'ondes et qui s'oppose à Isaac Newton qui, lui, soutient que la lumière est composée de particules. Et comme il y a des expériences qui confortent chacun des points de vue, c'est difficile de trancher. Les premières découvertes de la physique quantique démontrent d'ailleurs l'exactitude des théories de Huygens.
Viennent ensuite les travaux d'Albert Einstein. On connaît Albert Einstein surtout pour sa théorie de la relativité. Mais ce qu'on sait moins, Ludovic Beau, c'est qu'il a reçu son prix Nobel pour des travaux liés à cette dualité onde-particule, l'effet photoélectrique.
Tout à fait. La physique classique, vous avez eu raison de le rappeler, est partagée par une dualité entre onde et corpuscule. Elle présente un édifice théorique achevé des phénomènes ondulatoires et un édifice aussi des phénomènes corpusculaires. Elle est d'une certaine façon schizophrène entre les deux. Ce que Einstein a fait en 1905, c'est qu'il a découvert donc sur la lumière, qui était décrit comme un phénomène ondulatoire, au moins pas chez Newton, hein, mais à la fin du 19e siècle, Einstein a identifié par l'effet photoélectrique un effet corpusculaire de la matière très concret dans des expériences sur l'effet photoélectrique. Donc il a fait le premier modèle de photon. Et aujourd'hui, un photon, c'est quoi pour un physicien quantique ? C'est ni une onde, ni un corpuscule, c'est un quanta. C'est un quanta de champ électromagnétique. Voilà, il faut le dire autrement.
L'un des grands problèmes de la physique quantique est de se représenter par des images et des images justes.
Quand on essaie d'imaginer une onde sonore, on se l'imagine comme une vague sur l'eau. Et lorsqu'on essaye d'imaginer une particule, il nous vient tout de suite à l'esprit une bille lancée dans la cour de récréation. Ces deux notions semblent complètement opposées et incompatibles. Il nous est impossible d'imaginer une barque à la fois onde et matière qui flotterait à la surface de l'eau et qui en même temps s'étalerait et se répandrait sur toute sa surface comme des ronds dans l'eau.
La manière dont nous percevons l'environnement est capitale. C'est pourquoi l'observation et l'expérimentation, du coup, ont une importance considérable en ce qui concerne le monde quantique. Ludovic Beau, qu'il s'agisse de physique ou de philosophie, quelle est la part d'observation et de théorie ?
C'est indissociable. La physique n'est pas une spéculation métaphysique, c'est quelque chose qui se teste par l'expérience. Et la physique quantique, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, est quelque chose qui est arrivé par des expériences, par des faits expérimentaux qui se sont imposés aux physiciens fondateurs, sans aucune anticipation théorique.
Donc c'est l'expérience qui a amené les physiciens à imaginer un monde quantique, justement.
Tout à fait, tout à fait. Et ça serait une escroquerie intellectuelle que d'avoir proposé une théorie aussi bizarre s'il n'y avait pas des faits expérimentaux résistants derrière.
Mais alors, Jean-Luc Duvaille, vous qui êtes expérimentateur, est-ce que ce n'est pas difficile d'observer des phénomènes comme ça qui tendent à chaque fois à contredire l'idée qu'on se fait du monde classique ?
Dans nos travaux au quotidien, le monde quantique, finalement, je l'appréhende, comme je le disais tout à l'heure, vraiment comme un outil. Et donc, disons, quand on conçoit des matériaux et qu'ensuite on les conçoit pour une propriété nouvelle, c'est relativement transparent, on va dire, à travers cette conception, même si derrière, il y a tout un bagage dont on ne se rend plus compte et que l'on utilise et qui s'appuie sur ces fondements. Mais ce sont des fondements et derrière, on avance sans forcément se rentrer dans des considérations trop philosophiques.
Comme on le voit, les lois de la physique quantique semblent souvent jouer avec le regard de l'observateur et s'amuser de notre compréhension des choses. C'est le cas par exemple pour ce phénomène surprenant, celui de la superposition d'états. Mais de quoi s'agit-il exactement ?
En mécanique classique, les objets ont un état bien défini. Qu'est-ce qui caractérise une voiture que vous voyez passer sur la route, par exemple ? Sa couleur, sa vitesse, sa position sur la chaussée. Toutes ces caractéristiques sont mesurables et possèdent une valeur unique. La voiture n'a qu'une seule couleur et son conducteur n'a pas pu enclencher à la fois la seconde et la troisième. En mécanique quantique, par contre, c'est une autre paire de manches. Une particule soumise aux lois de la mécanique quantique possède, à l'instar de la voiture, différentes caractéristiques observables, position, vitesse de déplacement, vitesse de rotation sur elle-même, énergie, etc. Mais si elle se trouve dans un état quantique, ces différentes caractéristiques peuvent prendre plusieurs valeurs à la fois. Elle pourra alors tourner dans différentes directions en même temps, avoir plusieurs niveaux d'énergie simultanément et même être en plusieurs endroits à la fois. C'est un peu comme si la voiture pouvait être à la fois rouge, bleue et grise, en marche et à l'arrêt, ou se trouver sur plusieurs voies de circulation en même temps. C'est dans ses correspondances avec Albert Einstein qu'Erwin Schrödinger, l'un des pères de la mécanique quantique, dérouté par ce résultat théorique, a imaginé l'expérience de pensée qui portera plus tard le nom de « chat de Schrödinger ». Prenons un chat que nous enfermons dans une boîte hermétique contenant une capsule de cyanure. Cette capsule est reliée à un détecteur qui mesure le sens de rotation d'une particule. Si la particule tourne dans le sens horaire, la capsule de cyanure se brise et le chat meurt. Si la particule tourne dans l'autre sens, rien ne se passe et le chat reste en vie. Mais comme la particule est dans un état quantique, elle peut tourner dans les deux sens à la fois, ce qui signifie que le chat peut être à la fois mort et vivant.
Être capable de faire une multitude de choses en même temps, ou se trouver en plusieurs endroits à la fois, la physique quantique pourrait réaliser quelques-uns de nos rêves.
Il était question à l'instant du fameux chat de Schrödinger, cet étrange animal mort-vivant. Ludovic Beau, pouvez-vous nous rappeler le contexte historique de cette expérience de pensée ?
Schrödinger a été choqué, comme Einstein, par cette idée d'indétermination d'un résultat de mesure. Et pour pousser le bouchon un peu loin, il a repris en fait une idée d'Einstein. Einstein raisonnait avec un baril de poule qui explosait et qui n'explosait pas. Et Schrödinger a reformulé ça avec un chat pour nous parler de vie et de mort, de choses qui nous concernent un peu plus en tant qu'être humain.
Alors, qu'est-ce que Schrödinger a voulu montrer en imaginant cette expérience de pensée, justement ?
Il a voulu montrer les absurdités auxquelles conduit le problème de la mesure en physique quantique. Comme ça a été expliqué dans la chronique, un objet quantique peut être dans une superposition d'états. Oui ou non à une certaine question. Or, la physique quantique donc, vous dit que l'état de la particule, de l'électron, du photon, n'est pas déterminé avant la mesure. Il peut être plus ou moins, par exemple. Et la physique quantique vous dit, si on fait une mesure, le résultat ne peut être que plus ou moins, pas les deux. Or, la particule quantique est bien dans un état superposé des deux à la fois. Schrödinger a continué le raisonnement en imaginant que la particule puisse être couplée à l'état d'un chat par un dispositif expérimental qui est une fiole de poison, enfin un marteau qui tombe sur une fiole et le poison tue ou pas le chat. Si on prend la mécanique quantique au sérieux, le chat, le marteau, la fiole, la boîte dans laquelle il est, la particule, tout ça c'est de la matière, c'est décrit par l'équation de Schrödinger, équation de base de la physique quantique. Tout ça étant de la matière, les interactions entre ces éléments conservent la superposition d'états, nous dit l'équation de Schrödinger et la mécanique quantique. Et donc, il faut imaginer un chat à la fois mort et à la fois vivant, ou plus ou moins, ni l'un ni l'autre, dans un état superposé d'état vivant et d'état mort. Or, si on fait la mesure, si on regarde le chat, empiriquement, on sait qu'on n'observe jamais de chat dans un état superposé. On le voit soit mort, soit vivant. Il se produit ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes.
Et on parlait tout à l'heure d'importance du regard et de l'observation, et c'est en fait justement ce que vous disiez, uniquement la mesure qui décide du sort de ce chat. En définitive, Ludovic Beau, tout serait qu'une question de probabilité.
Voilà, le problème de la mesure soulève celui de l'indéterminisme et des interprétations de la mécanique quantique. On voulut voir dans l'intervention de l'expérimentateur, d'une conscience, d'un sujet qui expérimente, qui connaît, ce qui va déterminer le résultat de la mesure, comme si une conscience non matérielle agissait sur la matière. C'est ce paradoxe-là que Schrödinger a voulu mettre en avant, même si lui n'a pas du tout participé à ces interprétations de la mécanique quantique en termes de conscience qui agit.
Jean-Luc Duvail.
Il y a peut-être une expérience également intéressante et un concept pour appréhender cette dualité et cette question de probabilité que vous avez évoquée. Si l'on prend l'effet tunnel quantique, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des objets classiques, même si il y a beaucoup de quantique en nous, bien sûr, mais nous sommes macroscopiquement des objets classiques. Et donc, si on essaie de passer à travers un mur, évidemment, on se cogne et on ne passe pas. En revanche, un objet quantique, que ce soit un électron, par exemple, a une certaine probabilité de passer à travers une barrière, alors très très fine, hein, à l'échelle de quelques plans atomiques, typiquement, mais a une certaine probabilité de passer au travers. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, on rejoint tout à fait la question de probabilité d'être d'un côté ou de l'autre de cette paroi.
Donc on en revient toujours à l'observation, à la mesure. Car aujourd'hui, ce monde microscopique est fascinant, on veut l'observer sous toutes les coutures. Mais les particules ne se laissent pas faire. En plus de se comporter bizarrement, elles ont leur pudeur et elles refusent qu'on sache tout d'elles. Il existe en effet un principe selon lequel on ne peut mesurer toutes les propriétés d'une même particule, comme va nous l'expliquer tout de suite Stéphanie Morin.
Le principe d'indétermination stipule qu'il est impossible de connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule donnée. En effet, plus on tente de mesurer avec précision la position d'une particule, moins on pourra être précis sur sa vitesse, et inversement. Pour mieux comprendre ce principe, utilisons une analogie simple. Vous êtes sur le bord d'un circuit de voiture. On vous a chargé d'estimer la position et la vitesse de la première voiture exactement 30 secondes après le top départ. Pour cela, on vous propose soit un appareil photo, soit un radar. Vous êtes donc coincé. Soit vous déterminez la position de la voiture avec l'appareil photo, soit sa vitesse exacte avec le radar, mais vous ne pouvez pas faire les deux avec un seul instrument. Si on vous avait proposé une caméra, revoir le film vous aurait permis d'estimer à la fois la vitesse et la position de la voiture, mais de façon peu satisfaisante, le résultat aurait été flou et donc très imprécis. Il en est un peu de même pour une particule soumise à la mécanique quantique. On ne pourra jamais déterminer avec précision sa position et sa vitesse, car la mesure de l'une se fait au détriment de l'autre. Mais l'analogie s'arrête ici, car le principe d'indétermination ne relève pas d'un défaut ou d'une lacune des appareils de mesure, mais bien d'une limitation inhérente aux lois de la mécanique quantique. Des appareils toujours plus sophistiqués finiront toujours par nous permettre d'atteindre la précision voulue concernant la vitesse et la position de la voiture. Mais pour ce qui est de la particule, c'est la théorie elle-même qui impose cette limitation.
Écoutez La Recherche au Labo des Savoirs.
Fidélité sur la région de Mayenne, 107.5.
La théorie qui limite la pratique, voilà qui vient compliquer les choses. En effet, cela confronte les scientifiques à de nouvelles difficultés, et notamment dans l'observation et l'analyse des phénomènes quantiques.
Ludovic Beau, cette limitation de la mesure, est-ce qu'on en connaît les raisons ?
Oui, le grand mystère peut-être de la physique quantique, c'est qu'on peut donner un sens au fait de mesurer une grandeur physique qui n'a pas de sens dans la théorie. On a parlé de position de particules, un objet quantique n'a pas de position. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on peut donner un sens à quel résultat je pourrais obtenir si je mesurais la position d'un électron dans un atome. La mécanique quantique permet de calculer une probabilité pour que l'événement lié à la mesure se réalise, ce qui donne dans le monde classique un résultat de mesure pour une grandeur physique qui, dans la théorie elle-même, n'a aucun sens. Donc c'est ça l'indétermination, hein. C'est que la grandeur physique en question, que pourtant on mesure, n'est pas déterminée, n'a pas de sens appliqué à l'objet quantique. Elle n'a un sens que dans un scénario de mesure.
Jean-Luc Duvaille, est-ce qu'il y a des cas précis dans lesquels cette limitation peut s'avérer gênante ?
Je vais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Cette indétermination sur la quantité de mouvement, donc la vitesse et la position, souvent effectivement une relation équivalente, hein, toujours attribuée à Heisenberg, c'est entre l'énergie et le temps. C'est vrai que dans le monde quantique, on raisonne beaucoup, non plus en position et en vitesse, qui est vraiment une vision classique, on va dire, hein, d'une particule, et donc la vision corpusculaire, on raisonne plutôt en énergie et en temps. Et donc ces deux quantités-là, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour réussir à raisonner de cette manière en fonction de l'énergie et du temps.
Est-ce que vous avez un ordre de grandeur de cette indétermination? Si par exemple ma particule avait la taille d'une orange et que je voulais connaître sa position, qu'est-ce que ça impacte sur la mesure de sa vitesse?
Disons, l'orange est un objet qui est intrinsèquement classique, et donc dès lors que l'objet devient très grand, l'indétermination sur sa position devient extrêmement faible, et donc il n'y a plus de problème quantique liée à cet objet-là.
Mais si on s'intéresse tellement à mesurer les particules, c'est qu'elles peuvent tout de même nous apporter des informations. C'est le cas pour la téléportation quantique qui est possible grâce à un phénomène spectaculaire appelé intrication, et je laisse Stéphanie Mourin nous en parler plus en détail.
Certains vrais jumeaux, s'ils ont été élevés et ont passé leur enfance ensemble, racontent posséder une sorte de lien télépathique avec leur frère ou leur sœur. Ainsi, lorsque l'un des deux jumeaux ressent une vive émotion, l'autre serait en mesure de ressentir la même chose au même moment, sans qu'aucune communication n'ait lieu entre les deux individus. En mécanique quantique, l'intrication est le phénomène qui permet de jumeler des particules de façon similaire, de façon à ce qu'elles partagent à tout moment une caractéristique commune. Même si une très grande distance les sépare, le fait d'affecter l'une des deux particules aura pour effet d'impacter l'autre au même instant. Considérons l'électron, qui est notamment à l'origine du courant électrique. Cette particule possède une masse, une charge électrique, mais aussi une autre grandeur, appelée spin, qui n'a pas d'équivalent en mécanique classique. Ce spin ne peut prendre que deux valeurs, vers le haut ou vers le bas, un peu à la façon d'une toupie qui peut tourner dans deux sens différents, ou une ampoule qui peut être soit allumée, soit éteinte. Si on intrique une paire d'électrons, que l'on assimilera à des sortes de toupies quantiques, ceux-ci partageront le même spin, c'est-à-dire le même sens de rotation, quelle que soit la distance qui les sépare. Imaginons que deux personnes emportent leurs toupies jumelées aux deux extrémités de la galaxie. ces deux toupies tournent en continu et toujours dans le même sens. Si l'une des deux personnes décide alors de lancer sa toupie dans l'autre sens, la seconde toupie changerait elle aussi de sens de rotation au même instant et sans aucune intervention humaine. Il y a donc eu un échange d'informations entre les deux personnes sans que cette information ne transite entre les électrons. L'information a donc été téléportée. Cette idée de téléportation quantique est déjà sérieusement étudiée par les physiciens. Anton Zeilinger, de l'Université de Vienne, a battu en 2012 un record en effectuant avec son équipe une téléportation à 143 km de distance.
Le Labo des Savoirs, voyage au centre de la science.
La téléportation, tout le monde en a rêvé un jour pour voyager sur Terre ou même se promener dans l'espace.
Est-ce qu'il y a des limitations à cette téléportation quantique d'informations, Ludovic Beau ?
Téléportation quantique est un terme qui me gêne énormément. Je vais vous dire pourquoi. En tout cas, il n'y a pas de téléportation de matière. Il y a téléportation d'informations dans un certain sens. Alors là, il faut que je prononce deux choses, deux notions. L'intrication quantique dont il a été question et qui est à la base de ces phénomènes de téléportation d'informations viennent de la non-séparabilité des systèmes quantiques. En physique quantique en général, quand deux sous-systèmes interagissent ensemble, ils deviennent inséparables. Ils deviennent décrits par une seule fonction d'onde, un seul objet mathématique. Et je ne peux plus séparer ce qui serait du sous-système A et du sous-système B au sein du système complexe C qui est formé de A et de B. On ne peut plus discerner entre A et B dans le système entier. Schrödinger avait très bien synthétisé la situation en disant « La connaissance totale d'un système fait de sous-parties n'implique pas la connaissance totale de ses sous-parties. Je perds de l'information, je ne peux plus dire de choses sur les sous-systèmes dont le système complexe est composé parce qu'il y a eu interaction. Non-séparabilité. Le deuxième terme que j'ai envie de prononcer, c'est celui de non-localité. Qu'est-ce qui se passe dans les mesures d'état intriqué, donc d'état non séparable ? C'est qu'on a deux particules dans un état non séparable qui subissent toutes les deux une mesure. Il se passe lors de la première mesure ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. On en a déjà parlé tout à l'heure à propos du problème de la mesure. Et cette réduction du paquet d'ondes opérant sur un état non séparable est non locale. Elle a lieu sur les deux particules en même temps. C'est en ce sens qu'il y a téléportation d'informations instantanées à distance et qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc, on ne sait pas bien dire quoi. Il y a un changement d'information qu'on a sur le système lors d'une mesure qui impacte instantanément à distance l'autre particule sur laquelle il n'y a pas eu de mesure, puisqu'elles sont dans un état non séparable. Alors, donc, il y a bien transmission de quelque chose. Toutes ces expériences-là sont issues d'un débat entre Bohr et Einstein, qui a été très philosophique dans un premier temps, puis tranché par un théorème mathématique en 64, dû à Bell, et puis par des expériences sur des polarisations de photons. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a transmission de quelque chose, il y a réduction du paquet d'ondes de façon non locale, donc avec transmission d'informations instantanées, mais l'information transmise est codée, et pour avoir le code, il faut une transmission qui, elle, est causale. Ces choses-là ont des applications très très concrètes en termes de contre-espionnage. On peut savoir si on a été écouté ou pas.
On en arrive à la cryptographie quantique, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. Donc la cryptographie quantique, c'est transmettre un message codé, mais le code, lui, est transmis de façon classique. Donc l'information n'est pas utilisable. L'information qui est téléportée n'est pas utilisable, il faut transmettre le code.
C'est un peu comme si on avait deux coffres intriqués de cette façon-là, mais que la clé, elle, devait être envoyée par la poste.
Exactement, exactement. Très bonne image.
Aujourd'hui, c'est toujours de l'information qu'on téléporte, mais d'après vous, on ne pourra jamais téléporter de la matière.
Ah non, ça serait contraire au principe quantique.
Alors, dans la chronique, il a été question de spin. Pouvez-vous nous expliquer, Jean-Luc Duvail, de quoi il s'agit ?
Je pense que l'image qui a été donnée dans la chronique est très juste. Cette question de cette image d'une toupie, dans un sens ou dans l'autre, c'est effectivement cette rotation de l'électron sur lui-même qui va donner ce spin up ou down, donc vers le haut ou vers le bas. Et il n'y a que effectivement deux états possibles, alors deux états par rapport à une direction donnée. Et donc on définit une direction et une seule, et à partir de là, le spin peut être soit vers le haut, soit vers le bas.
Le spin, cette propriété supplémentaire propre aux particules, est tellement importante qu'un champ entier de la recherche lui est dédié, la spintronique. le Labo des Savoirs a rencontré le prix Nobel Albert Fert, chercheur toujours actif à 74 ans, qui en a fait son domaine de recherche. Écoutons-le tout de suite à travers cette interview réalisée par Alexandre Garraud et Gabriel S. Fernandez.
Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le Labo des Savoirs.
Qui est l'homme Albert Fert, le scientifique qui a reçu la médaille d'or du CNRS en 2003, le Japan Prize et le Wolf Prize en 2007, et également en 2007, ensemble avec l'Allemand Peter Grünberg, le prix Nobel de physique. Bonjour Albert Fert.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud et aussi directeur scientifique à l'unité mixte de physique CNRS Thales. Albert Fert, vous allez présenter ici à Nantes une conférence grand public sur votre thème de recherche qui est le monde de la spintronique, électrons, spin, ordinateur et téléphone. Des sujets qui touchent la vie quotidienne.
Oui, la fin, ordinateur et téléphone, ça touche notre vie. Et puis les électrons, les spins, ça touche la vie, mais on ne s'en rend pas toujours bien compte. Hein.
Je suis également en présence d'Alexandre Garraud, qui est doctorant à l'Institut des matériaux de Nantes, Jean Rouxel. Bonjour Alexandre.
Bonjour. Donc Albert Fert, votre carrière de physicien a été couronnée par le prix Nobel. Mais n'avez-vous jamais rêvé de faire un autre métier ?
Si. J'ai beaucoup hésité avant de faire de la recherche scientifique. Et en fait, j'ai commencé à être vraiment motivé pour la recherche et la science, uniquement pendant ma thèse. Pendant que j'étais étudiant, j'avais l'impression que la science était une accumulation de résultats déjà trouvés par des gens prestigieux, que tout avait été trouvé, qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les gens qui arrivaient, qu'il n'y avait pas beaucoup de création à amener. Et finalement, dès que j'ai fait ma thèse, j'ai compris que ce n'était pas vrai, qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de création et de choses à découvrir et d'idées à rêver, à mettre au concret.
Vous avez reçu le prix Nobel pour la découverte en 1988 de la magnétorésistance géante. Vous pourriez nous expliquer de façon simple ce phénomène physique ?
Oui, c'est un phénomène physique que vous connaissez, vous êtes familier puisque vous l'utilisez pour la lecture des disques durs de l'ordinateur. En fait, c'est un phénomène qui a été découvert sur des multicouches magnétiques. C'est des empilements de couches très très minces, quelques couches atomiques, quelques nanomètres, de métaux magnétiques et non magnétiques. Et la propriété de magnétorésistance géante, c'est que cette multicouche, ce film multicouche, laisse peu passer le courant normalement, mais en présence, à proximité d'un champ magnétique, le courant passe beaucoup plus facilement. C'est ce que vous utilisez dans votre disque dur. Quand la tête de lecture qui contient une multicouche approche d'une inscription magnétique, le champ magnétique par cette inscription ouvre la porte au courant et vous pouvez détecter l'inscription, ce qui a permis de diminuer beaucoup la taille des inscriptions et donc de multiplier par 1000 la capacité des disques.
Je me permets de revenir sur le mot spintronique. Vous le voyez en opposé ou en complément avec l'électronique ?
Oui, 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 au fond, les électrons, les petites particules que sont les électrons, ont une charge électrique et ont aussi un petit aimant qui s'appelle le spin, pour être rapide. Et donc, l'électronique habituelle n'utilise pas le spin. Déplacer les électrons en appliquant des forces électriques sur la charge électrique. Et la spintronique est parfois décrite comme un nouveau type d'électronique qui exploite à la fois la charge et le spin des électrons. Le spin des électrons était utilisé en magnétisme. C'est l'origine de l'aimantation, des aimants permanents, etc. Alors maintenant, la spintronique utilise à la fois la charge et le spin et donc permet d'établir beaucoup plus de couplage entre ce qui est magnétisme, par exemple mémoire, et électronique.
Vous avez reçu le prix Nobel en 2007.
Oui.
Donc dans quelle mesure ce prix a changé ou affecté votre vie et vos recherches ?
Bon, mes recherches, pas tellement, puisque j'ai continué sur ma lancée. On a une très bonne petite équipe dans cette unité mixte. Et la recherche dans ce secteur est toujours fascinante. Il y a beaucoup de choses à faire. À part ça, à cette vie normale de chercheur, hein, s'ajoute un certain nombre d'autres responsabilités. Hein. Responsabilité d'intervenir auprès des politiques quand on sent qu'il faut intervenir. Responsabilité aussi de contribuer à la motivation des étudiants, c'est dans les lycées ou comme aujourd'hui, hein, ici. Bon, parfois, on me demande beaucoup de choses. Que je suis sollicité, je réponds souvent non. Et parfois, j'ai pas. Bon, ça me prend du temps.
Pour conclure, une question. Si vous avez un conseil à donner à un jeune étudiant qui s'intéresse aux sciences ou à la physique en particulier, ou à un jeune qui n'est pas encore étudiant, est-ce que la physique est toujours un domaine où c'est intéressant de s'investir et de faire des études?
Bon, quand j'ai commencé, je crois que la physique était plus attirante pour moi. Mais par exemple, parce que la biologie était encore dans une période préhistorique, je pense qu'actuellement, la biologie est aussi très attirante. Actuellement, elle a fait tellement de progrès que c'est assez fascinant. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. La physique est toujours intéressante. Actuellement, bon, elle est sur une bonne pente. Dans mon domaine, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'astrophysique aussi est passionnante. Alors, la chimie, j'ai un a priori. Je n'ai jamais été bon en chimie par mes études, alors j'ai un a priori contre la chimie. Je m'excuse auprès des gens de l'Institut des matériaux.
Merci, c'était Albert Fert, prix Nobel de physique au Labo des Savoirs.
Merci.
Merci à vous.
Le Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses.
Fidélité sur la région de Château-Gontier, 107.5.
Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et nous sommes ce soir à la découverte du monde quantique avec Jean-Luc Duvaille et Ludovic Beau. Nous venons d'entendre une interview d'Albert Fert, prix Nobel de physique 2007, grâce à ses travaux sur la magnétorésistance géante.
Alors, Jean-Luc Duvaille, Albert Fert a notamment été votre directeur de thèse, donc vous avez collaboré ensemble. Vous semblez donc bien placé pour parler de ces travaux. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que nous venons d'entendre?
Oui, du point de vue personnel, déjà, c'est déjà une très belle partie de ma carrière et de très bons souvenirs entre 1989-90, quand j'ai découvert Albert Fert et donc découvert son équipe, toute naissante à l'époque. Hein, il venait de faire cette découverte importante qui est la magnétorésistance géante. Bon, c'est effectivement quelque chose d'important au niveau autant scientifique que personnel.
Et donc, en quoi ça a consisté, sa grande découverte, la magnétorésistance géante?
La vraie nouveauté, c'est qu'il a compris qu'il était possible de contrôler le spin des électrons, dont on a largement parlé, mais cette fois, le spin des électrons, vraiment dans la matière, dans un conducteur métallique, en l'occurrence. Il a travaillé beaucoup sur les métaux et les alliages durant sa thèse. Et il a fallu attendre, on va dire, le milieu des années 80, pour que, du point de vue technologique, on sache réaliser ces empilements de couches, tantôt donc d'un métal magnétique et tantôt d'un métal non magnétique, et à partir de là donc de pouvoir contrôler l'aimantation des matériaux dans ces échelles et donc également le spin des électrons qui passent d'une couche à l'autre.
Alors c'est justement ce contrôle du spin qu'utilisent les mémoires de nos ordinateurs maintenant, des lecteurs MP3 et des appareils photo.
Si on comprend bien, les électrons en fait se rangent, en tout cas leur spin se range bien comme il faut, tous dans la même direction quand ils sont dans des couches très minces. Et donc, à partir de ça, on arrive à faire des mémoires plus puissantes. Mais alors, comment ça fonctionne un peu plus concrètement? Comment est-ce qu'on l'utilise dans un disque dur, par exemple?
Il faut bien distinguer dans le stockage d'informations, il y a deux parties essentielles. On dit bien, il y a le support, qui est le disque dur proprement dit, le média, on parle là, où il y a donc simplement des petits aimants magnétiques, alors qui aujourd'hui sont constitués de quelques particules à l'échelle nanométrique, hein, donc c'est tout, tout petit. Donc ça, c'est le bit magnétique. Et la magnétorésistance géante, elle intervient, elle, de l'autre côté, c'est-à-dire du point de vue du capteur magnétique qui va détecter l'orientation de l'aimantation de ces bits magnétiques. Et donc, une orientation vers le haut ou vers le bas produira une modification du comportement électrique du capteur et donc un changement de tension ou de résistance. Et donc, ce changement-là, c'est ça que le capteur détecte et c'est donc l'information.
Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nos ordinateurs fonctionnent grâce à la physique quantique? Du moins grâce à des effets quantiques.
Oui, on peut tout à fait le dire en ces termes. La physique quantique est au cœur vraiment des ordinateurs, non seulement bien sûr du stockage magnétique, hein, donc des mémoires, mais même de l'ensemble du comportement d'un ordinateur.
Et donc pour que cet effet de magnétorésistance géante se manifeste, il faut utiliser des structures constituées de couches très minces, donc quelques atomes seulement. Nous l'avons déjà vu, dans ce nanomonde, la matière se comporte très différemment et les chercheurs découvrent souvent des propriétés nouvelles et surprenantes. Donc ce n'est pas uniquement valable pour le magnétisme ou la conduction électrique, ça s'applique aussi à la solidité ou aux propriétés chimiques et optiques des matériaux. Jean-Luc Duvaille, est-ce que vous pouvez nous citer quelques autres exemples de propriétés sur ces matériaux apportées par la mécanique quantique ?
On s'intéresse effectivement aux propriétés électriques, aux propriétés optiques. Si l'on revient aux propriétés magnétiques peut-être, on évoquait le spin. Quand une particule, une particule de métal magnétique par exemple est toute petite, eh bien, elle peut se comporter comme un superatome. En réalité, elle est composée de quelques dizaines ou éventuellement quelques centaines d'atomes, mais comme un superatome dont l'aimantation, donc tous les moments magnétiques de chacun des atomes, seront orientés selon la même direction. Et donc là, on a un moment magnétique unique, un super moment magnétique. Et ces comportements-là nous permettent également d'appréhender à l'échelle intermédiaire, qui est microscopique, de nouveaux phénomènes que l'on peut exploiter, notamment pour le stockage magnétique.
Donc on le voit à travers justement ces nanomatériaux, les applications de la physique quantique sont particulièrement nombreuses. Mais combien d'entre nous, finalement, se rendent compte qu'ils les utilisent à chaque fois qu'ils allument leur ordinateur ou qu'ils envoient un mail ?
Et oui, la mécanique quantique est encore très mystérieuse, ce qui la rend d'autant plus fascinante aux yeux du grand public. C'est sans doute pour cela que de nombreux films, des séries télé ou des sketchs d'humoristes y font référence. Et si la mécanique quantique ne semble pas faire le bonheur de Pierre Richard, elle réussit plutôt bien à Sheldon Cooper, le physicien surdoué de Big Bang Theory. Même Alexandre Astier est parvenu à écrire un sketch assez mordant sur le terme de la physique quantique. Après visionnage, le Labo des Savoirs vous propose à présent de vous raconter avec humour l'épopée quantique.
Quand la radio devient labo, écoutez les expériences du Labo des Savoirs.
Loin de ceux qui courtisent la physique quantique avec la froide raideur d'un Pierre Richard un peu sinistre,
je suis physicien quantique.
Il y a ceux qui l'abordent avec la plus parfaite désinvolture et qui paraissent ne voir en elle qu'une simple charade.
C'est pas très difficile, c'est de la mécanique quantique plus une de mes théories que j'ai rajoutées en bas. Ces équations-là, c'est pour m'amuser. J'ai réinventé l'approximation de Born-Oppenheimer.
Et devant l'incompréhension du commun des mortels, ceux-là doivent chercher en toutes circonstances à conserver leur désinvolture. Quitte pour cela à écarter du pied leur modestie.
Ah oui, vous êtes du genre super doué en maths, vous êtes un génie, c'est ça ?
Tout à fait.
Il existe même certains marginaux qui, épuisés d'exercices subatomiques, en viennent à se prendre eux-mêmes pour des êtres quantiques.
Je suis l'humain quantique, être biotique, à la vie codée dans une matrice synthétique.
Mais au-delà de cette déviance, la question centrale demeure. La physique quantique, qu'est-elle vraiment ? Est-il possible au moins d'en définir les fondements ?
Vous, moi, lui, cette table, eux, nous ne sommes qu'un. Interreliés les uns aux autres par un phénomène aussi fascinant que mystérieux, la physique quantique.
Dans ces conditions, comment donc aborder le monde quantique ? Eh bien, principalement à l'aide de deux types bien distincts de scientifiques. D'une part les théoriciens et d'autre part les physiciens expérimentaux. Inévitablement, chacun tire à soi la couverture, ce qui conduit à d'incessantes querelles.
C'est moi qui ai conçu l'expérimentation qui valide notre hypothèse.
Elle n'a pas besoin d'être validée.
Quoi ? Ah, parce que selon toi, la communauté scientifique doit te croire sur parole ?
Elle n'est pas obligée, mais elle devrait.
Alors, face à de telles difficultés dans la manière d'appréhender la physique quantique, les moins optimistes seraient tentés de constater qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une impasse intellectuelle.
Physique quantique, un bilan mitigé.
Mais une impasse qui aurait toutefois le mérite d'offrir aux scientifiques l'occasion d'organiser des courses de vitesse, voire même des combats clandestins, dans un accélérateur de particules aux environs de Genève.
Nom de Zeus !
Bilan mitigé peut-être, mais à tout bien considérer, il ne serait pas impossible de trouver une certaine utilité à la physique quantique. Certaines expériences, celles des fentes de Young par exemple, pourrait en effet aboutir à quelques probantes applications.
Si un photon est émis vers un écran percé de deux fentes et que chaque fente est observée, il ne passera pas par les deux fentes. S'il n'est pas observé, il passera. Cela dit, s'il est observé après avoir traversé l'écran mais avant qu'il atteigne sa cible, il n'aura pas traversé les deux fentes.
Je sais. Où tu veux en venir ?
Nulle part, mais c'est pas une mauvaise idée pour un t-shirt.
En réalité, cette façon assez cavalière de considérer les choses provient sans doute de l'incapacité quasi générale à saisir vraiment ce qu'est la physique quantique. puisque même les scientifiques les plus chevronnés sont bien forcés d'admettre qu'il s'agit là d'une science obscure.
Personne ne comprend vraiment la physique quantique, hein, Richard Feynman. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire que Richard Feynman, fer de lance de la physique quantique dans le monde, personne ne comprend vraiment la physique quantique. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent.
Tout aussi obscur, semble-t-il, l'humour des physiciens, qui paraît également répondre à des lois particulières.
C'est l'histoire d'un fermier qui a un élevage de poules, mais aucune d'entre elles ne donne d'œufs. Alors du coup, il fait appel à un physicien, vous me suivez? Et ce physicien, après avoir fait tout un tas de calculs, lui dit alors, j'ai bien une solution, mais ça ne marche qu'avec des poules sphériques et un aspirateur.
Si personne ne la comprend vraiment, se pourrait-il alors que la physique quantique ne soit, en définitive, qu'un fantasme de chercheur?
Nom de Zeus!
Un fantasme de chercheur issu d'une capricieuse manie de vouloir tout remettre en question, parce que si l'on en croit les lois de la physique quantique...
La matière, une grande illusion. La réalité, une simple affaire de perception.
Et si réellement tout est relatif, ne faudrait-il pas relativiser aussi l'importance d'une science qui pose finalement davantage de problèmes qu'elle n'en résout? En définitive, cela ne devrait-il pas conduire les scientifiques à se poser les questions les plus fondamentales?
A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique? Physique quantique, révolution ou mascarade?
À la recherche des sciences, écoutez le Labo des Savoirs.
Vous êtes au Labo des Savoirs, l'émission « Comprendre le monde quantique ». Avec nous, Ludovic Beau, enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne, l'École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne, et Jean-Luc Duvail, physicien à l'IMN, l'Institut des matériaux Jean Rouxel. Ludovic Beau, alors, selon vous, mécanique quantique, révolution ou mascarade, ou du moins est-il possible de l'appréhender avec humour?
Oui, oui, bah, j'ai rien contre Alexandre Astier. Mascarade, certainement pas quand même. Révolution, oui, mais on n'en est pas au bout, ça c'est clair. Il y a des arguments très solides pour dire au sein de la physique contemporaine que la physique quantique n'est peut-être pas la théorie achevée terminale de la physique. On a des problèmes avec la gravité. On ne sait pas faire de gravité quantique ou de quantique géométrique. Il y a une incompatibilité très profonde entre les deux théories. Donc il y a quand même des spéculations théoriques qui pourraient être très spéculatives et très théoriques sont quand même sérieuses, qui visent à aller au-delà de la physique quantique. Et peut-être que viendra une solution satisfaisante. Enfin bon, mais moi je reste intimement convaincu qu'il restera de la mécanique quantique des notions de fond, la non-séparabilité, l'indéterminisme du processus de mesure, la non-localité, ça restera. C'est toute physique nouvelle qui se prétendra aller au-delà de la physique quantique devra recomprendre ces résultats-là et en proposer une interprétation.
La mécanique quantique, on a du mal à y croire tellement ces concepts sont bizarres. Mais pourquoi ne peut-on pas se dédoubler? Pourquoi n'a-t-on pas un chat mort vivant? Quel est le lien entre mécanique quantique et mécanique classique? Pour en comprendre la cohérence, Stéphanie Morin va vous parler de décohérence.
Vous l'aurez compris, le comportement des particules à petite échelle est soumis à un ensemble de règles bien différents des règles de la physique que l'on peut observer tous les jours. Mais comment se fait-il que des particules obéissant à la mécanique quantique et à un ensemble de règles aussi hétéroclites puissent donner forme à la matière classique que l'on connaît? Pourquoi les effets quantiques ne s'appliquent pas à notre échelle et aux objets de notre quotidien? Il s'agit principalement d'une question d'échelle et d'interaction entre les particules. Une particule seule et isolée ne subit pas de contraintes extérieures. Elle est alors en mesure de développer les effets quantiques décrits au cours de cette émission. En un sens, les conditions d'application de la mécanique classique ne sont pas présentes. Cela reste valable pour un ensemble de particules, à condition qu'ils ne soient pas trop importants et qu'ils restent isolés de l'environnement. En revanche, une particule qui a beaucoup d'interactions avec son milieu sera sujette à davantage de contraintes et perdra cette liberté quantique. Elle aura tendance à voir ses caractéristiques s'homogénéiser avec celles des autres particules de son milieu et ses propriétés seront de nouveau régies par la mécanique classique. Le phénomène de passage de la mécanique quantique à la mécanique classique se nomme décohérence. Il survient lorsqu'une particule a un trop grand nombre d'interactions avec les autres particules de son milieu pour rester quantique. Ainsi, les objets de notre quotidien ne sont jamais suffisamment isolés pour être sujets à la mécanique quantique. Ils sont en contact permanent avec l'air, la lumière et bien d'autres éléments solides encore. De plus, ils sont bien trop gros et leurs particules interagissent entre elles. La moindre poussière est formée à elle seule de milliards d'atomes, ce qui est beaucoup trop important pour voir émerger des effets quantiques. La mécanique classique reste donc une très bonne approximation de notre univers à la plupart des échelles.
La décohérence, c'est donc ce qui nous éloigne de l'infiniment petit et nous permet de garder, en apparence du moins, les pieds sur Terre. C'est également ce phénomène qui a valu le prix Nobel de physique 2012 à Serge Haroche, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. Ses recherches sur la décohérence lui ont notamment permis de voir en direct le passage du monde quantique au monde classique, d'après le titre de l'un de ses articles. Ludovic Beau, pourriez-vous, avez-vous quelque chose à dire sur justement ce prix Nobel attribué à Serge Haroche ?
Serge Haroche et David Weinland ont eu le prix Nobel pour tout un tas de techniques expérimentales qui permettent justement de maîtriser la transition entre le quantique et le classique. Et donc de retarder cet effet de décohérence qui, dans la vie quotidienne, a lieu très, très, très brutalement, ce qui fait que l'orange dont on a parlé tout à l'heure est un très bon objet classique. Ce que fait Serge Haroche et son équipe, c'est de faire interagir un photon avec quelques atomes de l'ordre de la centaine. Ils étudient comment, petit à petit, le photon perd ses propriétés quantiques pour devenir un objet classique avec l'ensemble d'atomes avec lequel il interagit. Et ce sont des expériences dites de chat de Schrödinger. Parce que même si on ne parle pas d'un chat, mais d'une centaine d'atomes, on couple un objet, un quantum, le photon, qui est dans un état superposé, à quelque chose qui est macroscopique par rapport à lui, qui est la grappe d'atomes. Du coup, on transfère des propriétés de superposition quantique d'un système microscopique, le photon, à un système qui commence à ressembler à quelque chose de macroscopique. Et on se rend compte que cet effet de décohérence a lieu bien avant qu'on ait affaire à un chat. Une centaine d'atomes suffisent pour que les propriétés quantiques disparaissent presque totalement. Alors, cet effet de décohérence est quelque chose de très important dans la compréhension de la transition quantique vers le classique, comme on l'a vu.
Mais justement, quelle perspective ça ouvre à la physique quantique ?
Ça ouvre à la physique en général, quantique et classique, de pouvoir se réunifier. L'émission s'appelle « Le monde quantique », comme s'il y avait un monde quantique d'un côté et un monde classique de l'autre. Donc la physique serait schizophrène. En fait, non, on recomprend aujourd'hui que la physique classique est une conséquence contingente, un peu bête, mais enfin, dans certaines conditions expérimentales qui sont celles de la vie quotidienne, quand l'effet de décohérence a lieu, la physique classique est une très bonne approximation de la physique quantique. Et c'est même un petit peu plus profond que ça. On peut démontrer que c'est la seule approximation possible et qu'on n'aura jamais accès expérimentalement aux résidus quantiques qu'il y aurait dans un système qui a subi la décohérence. Donc ça, c'est très important parce que ça restaure une unité au sein de la physique. Avec le prix Nobel de 2012 donné à Serge Haroche et à David Weinland, il faut citer celui de 1997 donné à un autre Français, Claude Cohen-Tanucci, pour la théorie de l'atome habillé. L'atome habillé, c'est l'atome en interaction avec quelques photons, des interactions très maîtrisées, où il faut traiter, et Cohen-Tanucci a été le premier à le faire, où il faut traiter et l'atome et le champ électromagnétique, le photon, de façon quantique. Et ça, c'est les bases de la théorie de la décohérence.
Nous avons pu remarquer combien il est difficile d'appréhender l'infiniment petit, régi par des lois particulières. Et la question qui, malgré tout, doit demeurer sur toutes les lèvres est la suivante. Est-il possible, en fin de compte, de comprendre la physique quantique ?
Oui, Maxime. Et cela nous conduit à supposer que le monde quantique nécessite peut-être une autre manière de comprendre.
Une réaction, Ludovic Beau ?
Je ne suis pas sûr que... Là, c'est un peu le philosophe qui parle. Je ne suis pas sûr que l'objectif de la science soit vraiment de comprendre. Si elle prédit et si elle explique, c'est déjà pas mal. Quand on pratique la physique quantique, quand on est dans les équations, qu'on fait des prédictions expérimentales, qu'on voit nos nanotubes concrètement synthétisés, avoir les propriétés électriques et magnétiques qu'on a prédites, on joue avec ça pour faire tout un tas d'applications, on rentre quand même, on se familiarise avec les concepts quantiques. Et on a l'impression de comprendre, parce qu'on prédit, on manipule la matière et ça marche. C'est pas un fantasme, la physique quantique, ça marche. Je suis assez d'accord pour dire qu'on ne comprend pas totalement la physique quantique. C'est d'une certaine façon une physique incompréhensible et contre laquelle il faut se révolter. Moi, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Ceci dit, bon, la physique quantique, ça fait à peu près un siècle qu'elle est née. Une théorie scientifique, des connaissances ont besoin de passer dans la culture. Ça se fait petit à petit, ça se fait parfois avec des contresens. Et cette digestion culturelle de la physique quantique ne fait que commencer. Et il faudra probablement plusieurs siècles pour que ça passe vraiment dans nos représentations quotidiennes.
Alors cette émission touche à sa fin et comme on a pu le constater, au final, la mécanique quantique, dans son côté philosophique, nous apporte plus de questions qu'elle apporte de réponses, même si on arrive à en déduire des applications. Alors on passe tout de suite au rendez-vous des curieux pour quelques livres pour aller plus loin.
Le rendez-vous des curieux.
Pour les curieux, la bibliothèque du Labo des Savoirs recèle tout d'abord deux ouvrages publiés par Sven Ortoli et Jean-Pierre Farabeau aux éditions La Découverte. Le Quantique des Quantiques, publié en 2007, et Métaphysique Quantique en 2011. Deux ouvrages accessibles à tous et truffés d'images faciles à comprendre.
Assez facile à lire également et particulièrement adapté au grand public, laissez-vous embarquer pour un petit voyage dans le monde des quantas, publié par Étienne Klein chez Flammarion. Un peu moins accessible, en revanche, et pour ceux qui n'ont pas peur ou ceux qui étudient dans le domaine, on peut conseiller l'ouvrage assez complet de Roland Omnes, édité chez EDP Sciences et intitulé « Comprendre la physique quantique ».
Et à mi-chemin entre l'ouvrage de vulgarisation scientifique et l'essai philosophique se situe « La philosophie des sciences de la matière » publié par Ludovic Beaune aux éditions L'Harmattan. C'est bien cela, Ludovic Beau ?
Oui, ce livre, c'est mon cours de philosophie que je fais pour des doctorants. Et les deux premiers chapitres sont consacrés à la physique quantique.
Eh bien, merci d'avoir écouté ce programme quantique et merci également à nos invités. Ludovic Beau, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne, l'École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne.
C'est bien cela, une école d'ingénieurs à Brest.
Un grand merci également à Jean-Luc Duvail, physicien à l'IMN, l'Institut des matériaux Jean Rouxel, pour avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Vous pouvez nous réécouter et télécharger cette émission en podcast sur le site de la radio Prune, rubrique Labo des Savoirs. Retrouvez aussi l'émission et les actualités du Labo des Savoirs sur Facebook ou Twitter.
C'était une émission animée et préparée par Maxime Folchette et Jérémy Camus. À la technique, Guillaume Mézières, et à la rédaction en chef du Labo des Savoirs, Gabriel S. Fernandez. À tous les auditeurs, à bientôt.